Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Des milliers d'enfants échappent encore à la vaccination au Grand Kasaï. Situation qui expose la majorité de la population infantile à des maladies pourtant évitables. Cette alerte est du coordonnateur régional de l'Association pour le bien-être familial et la naissance désirable dans le Grand Kasaï, vous l'entendrez. Clôture hier à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités de la structure de coordination nationale du PDDRCS, atelier tenu dans le cadre de la mise en œuvre du système SICO, mis en place par la MONUSCO. Sa mission, faire le suivi de la réinsertion, réintégration communautaire et de l'employabilité de ses bénéficiaires. Et puis, l'invité de ce matin, Dr Jules Villa, de l'Institut Pasteur de Paris, qui vient de mener une recherche sur le monkeypox au quartier Pakajuma, à Limete, Kinshasa. Dans ce journal, il revient notamment sur les conclusions de son travail. À tous et à toutes, bonjour. Au Grand Kasaï, des milliers d'enfants échappent encore à la vaccination, exposant une large frange de la population infantile à des maladies pourtant évitables. La situation est particulièrement préoccupante dans les provinces du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, où la couverture vaccinale reste très faible. En cause, des obstacles logistiques, des déplacements fréquents des populations, mais aussi une désinformation tenace autour des vaccins. Face à ces défis, les autorités congolaise, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, intensifie les campagnes de vaccination en misant sur l'accessibilité des soins et la sensibilisation communautaire. Docteur Placide Kayomba, coordonnateur régional de l'Association pour le bien-être familial et la naissance désirable dans le Grand Kasaï, explique la situation au micro de Kelvin Baeni.
Pour les trois provinces, dont le Kasaï oriental, province de Lomami et province de Sankuru, ces provinces sont identifiées parmi les zones prioritaires en raison de la présence des grands nombres d'enfants non vaccinés ou sous-immunisés. En 2021, par exemple, environ 13% des enfants n'avaient reçu aucun vaccin dans ces provinces et 45% d'enfants étaient sous-immunisés. Concernant le défi persistant, nous avons les infrastructures de santé qui sont insuffisantes. C'est pour dire que la structure dans le Kasaï pose déjà un problème aussi même pour la conservation de ces vaccins, d'où même déjà un problème de viabilité en termes même de la qualité des services. Il y a même rupture de ces vaccins aussi. Il faut aussi reconnaître le déplacement des populations. Mais le plus grand obstacle, notre population est très mal informée en ce qui concerne le vaccin. Vous allez voir qu'il y a certains parents qui ne veulent pas de leurs enfants suite aux mauvaises informations. Il y a même toute une religion qui évolue beaucoup à l'espace Kasaï pour dire que pour eux, la vaccination, ce n'est pas important pour leurs enfants.
Dans l'actualité aussi, clôture hier jeudi à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités de la structure de coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, atelier tenu dans le cadre de la mise en œuvre du système SICO. Il s'agit d'un nouveau logiciel mis en place par la MONUSCO pour le suivi de la réinsertion, réintégration communautaire et de l'employabilité de ses bénéficiaires, organisé par la mission onusienne à travers sa section DDRS. Ces assises de 3 jours ont réuni au moins 40 participants, dont des agents du PDDRCS, des experts en informatique, des services spécialisés du gouvernement et les membres de la section DDRS de la MONUSCO. Compte rendu de Grace Hamzati.
Cette plateforme est un système intégré comportant 3 composantes essentielles qui sont l'information, le conseil au client et l'orientation. Luc Mipoukoussou, chargé de la base de données au PDDRCS, est l'un des participants. Il parle de l'apport de ces nouveaux logiciels dans son travail.
Au travers de SICO, nous pouvons identifier les opportunités qui se trouvent dans chaque millier, lesquelles opportunités peuvent être couplées avec les ex-combattants que nous sortons des groupes armés et qui peuvent les aider dans leur réintégration.
Tout en saluant le soutien technique et financier de la MONUSCO, le coordonnateur national adjoint en charge des questions administratives et financières, William Balika Loamouchi, et représentant du coordonnateur national du PDDRCS, vante la capacité de cet outil à intégrer les opportunités socio-économiques locales. Il cite notamment les formations professionnelles, les projets générateurs des revenus, les opportunités d'emploi et les chantiers de réinsertion. De son côté, la coordonnatrice principale adjointe de la section DDRS MONUSCO, Madame Silke Rouche, rappelle que cette initiative rentre dans le cadre du mandat de la MONUSCO d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre du PDDRCS. Elle affirme que dans chaque programme DDR, la phase la plus importante est la réintégration.
Parlant du PDDRCS, en Ituri, signalons le lancement effectif hier à Téré, dans la périphérie de Bounia, des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles par des ex-combattants de la milice Zaïre. Ces derniers ont déposé les armes auprès du PDDRCS à Mabanga, dans le territoire de Djougou, il y a quelques mois. Ces travaux qui visent leur réinsertion et réintégration communautaire sont financés par la MONUSCO à travers sa section de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation. Des précisions avec vous, Sadiq Yaboubakar.
Ces travaux de haute intensité de la main-d'œuvre vont durer 3 mois et concernent 2 axes routiers d'à peu près 6 km. Il s'agit de l'axe routier Ngona-Rwampara et Kisoke-Chinga. Les bénéficiaires sont des ex-combattants et des membres de la communauté locale. Un des ex-combattants explique en quoi ces projets lui est bénéfique.
Ces travaux vont m'aider à m'épanouir, moi et ma famille. Le peu d'argent que je vais gagner ici, je vais le multiplier à travers de petits commerces. Vous savez, quand on est dans la milice, on réfléchit autrement. Mais comme on a déposé les armes, on s'engage pour la paix et le développement de la communauté.
Le chef du groupement des Téré, Batagoura Mugeni Zamundu, affirme que les routes des déserts agricoles en réhabilitation vont contribuer au développement de son entité.
Vous savez que dans le groupement Téré, on n'a pas vraiment un marché. Ces routes vont ainsi permettre une évacuation facile des produits agricoles de nos paysans vers les marchés de Bounia.
Signalons que ces ex-combattants avaient également bénéficié de 25 vaches pour l'élevage. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Rendons-nous à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. La section d'appui à la justice de la MONUSCO a clôturé hier 2 sessions de formation à l'intention d'une 20aine d'acteurs de la justice militaire et de la police judiciaire. La première portait sur l'expertise balistique appliquée aux procès pénaux et la seconde était axée sur la cybercriminalité et les techniques d'enquête numérique. Le commissaire Dieu Merci Lomoyo, l'un des participants, salue la qualité de la formation qui, selon lui, va renforcer ses compétences professionnelles, il le dit à André Kitenge.
Nous avons beaucoup appris dans les techniques, les méthodes, tout ça. Nous avons vu différents types de la balistique. Il y a la balistique interne, balistique extérieure et la balistique finale là-bas. Et tout ça, c'est tout ce que nous ne connaissions pas. Et comment cela s'est passé dans les armes avec des différentes munitions. Et tout cela nous a donné encore un plus dans notre vie, dans notre métier. Et nous serons maintenant capables de faire même des enquêtes en matière balistique et de faire notre rapport acquis de droit. Nous allons améliorer notre manière de travailler parce que nous avons acquis de nouvelles connaissances. Prochainement, on voudrait à ce qu'on fasse encore plus de formation et qu'on approfondisse encore plus. Cela peut nous aider et ça sera pour toute la vie parce que nous n'allons plus perdre cela. Nous avons déjà un gain, nous avons gagné.
Restons à Beni. Le Parlement d'enfants en coordination du Grand Nord Kivu appelle à la justice pour les milliers d'enfants victimes de violences et conséquences de la guerre qui perdure dans l'Est de la RDC. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes d'agressions, journée célébrée le 4 juin pour Georges Kambale, porte-parole du Parlement d'enfants. Les enfants de Beni, Goma, Bukavu et d'autres zones touchées par le conflit méritent une attention particulière et le rétablissement de leurs droits fondamentaux. Georges Kambale est joint par André Kitenge.
Cette journée rappelle au monde des millions d'enfants qui souffrent des conséquences des guerres et des violences. À Beni, nous connaissons cette réalité, des enfants qui sont tués, des enfants qui sont élevés, des enfants qui sont tellement traumatisés. Sur ce, nous, tant que Parlement d'enfants, nous demandons que cela cesse. Nous appelons à la protection réelle des enfants. Les armes doivent se taire pour que la voix de la faim parle. Nous demandons justice pour les victimes et des actions concrètes pour que l'éducation, la santé mentale et la réintégration des enfants pas toucher dans la communauté. Mais aussi, nous demandons au gouvernement d'agir maintenant. Les enfants ne doivent plus être des cibles, car un enfant qui est protégé aujourd'hui, c'est un adulte responsable demain. Nous demandons la justice à tous les enfants du Grand Nord, tous les enfants des Goma, les enfants des Bukavu. La justice doit être rendue à tous ces enfants. Ils ont le droit d'étudier. Ce sont des enfants qui ne savent rien de ce qui se passe. Ils sont là comme des victimes. Le gouvernement doit faire quelque chose pour que la justice soit rendue à tous ces enfants.
Autre nouvelle, la chikwang provenant de la périphérie de Kinshasa, plus précisément du plateau de Bateke, devient de plus en plus rare. Les vendeuses de chikwang de cette partie est de la ville disent traverser une période difficile et pour cause, l'insécurité causée par les attaques à répétition de la milice Mobondo qui terrorise la population et bloque les routes dans la périphérie est de Kinshasa. Nancy Atambo nous en dit plus.
Ce manque d'approvisionnement fait grimper les prix. Un sac de chikwang qui coûtait 150 000 francs est maintenant à plus de 200 000 francs congolais. Même les transports deviennent un casse-tête pour les commerçantes. Marie et Rachel, vendeuses en gros, nous expliquent ici les difficultés rencontrées.
Les personnes qui nous achètent du chikwang sortent maintenant pour aller acheter du manioc à Kinshasa, à Maluku. Là-bas, à cause des affrontements violents, les prix ont grimpé.
Nous vendons en gros à des clients réguliers qui achètent beaucoup. Ils achètent chez nous à 700 francs congolais et revendent à 1000 francs. Nous, on achète à 500 francs congolais et on revend à 700 francs. Donc, on a un bénéfice de 200 francs congolais. Mais si on ajoute le transport, moi je ne gagne plus que 100 francs congolais. Les affrontements sont très violents dans cette zone.
Mundosi Alexis, le bourgmestre de Maluku, a confirmé cette information en fustigeant la présence de la milice Mobondo.
Par rapport à ce mouvement-là de milice, qui a pris au moins beaucoup de temps, c'est 2 ans et demi, les femmes sont pénalisées, ils n'ont pas l'accès.
Ces femmes lancent un appel pressant au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser cette partie de la capitale afin de leur permettre de reprendre leurs activités quotidiennes car la survie de leur famille en dépend.
Le 5 juin, c'était hier, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'environnement sous le thème général « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». À Goma, au Nord Kivu, plusieurs activités ont été organisées, notamment une conférence débat à l'Institut supérieur de développement rural ISDR Grand Lac et une séance de sensibilisation des élèves de l'école des volcans dans la commune de Goma. Sensibilisation à l'impact des additifs aux matières plastiques sur la santé de l'enfant, activité organisée par l'ONG Appui aux initiatives communautaires de développement durable. On écoute à ce sujet Faustin Niebone, directeur exécutif national de cette ONG.
Lorsque on met les aliments chauds sur un plat plastique, les additifs toxiques vont entrer dans les aliments. Si on expose l'eau minérale contenue dans une bouteille en plastique au soleil, les ultraviolets vont dissoudre les additifs toxiques dans l'eau et abîmant ces toxiques. On utilise même les enfants pour allumer le feu en brûlant les sachets. Ces additifs-là seront libérés sous forme gazée et l'enfant, en inhalant ces gaz toxiques-là, il sera intoxiqué. Parce qu'il y a un additif qu'on trouve dans le plastique qu'on appelle phtalate, qui empêche au plastique de s'enflammer vite. Une fois accumulé dans le corps de l'enfant, ça va atrophier le développement du cerveau et même les quotient intellectuel de l'enfant va diminuer. On ne fait que manger sur le plastique, on boit dans le plastique, on dort sur le plastique, on se lave dans le plastique. Ce sont ces habitudes-là qui sont en train de nous tuer à petit feu. Donc ça, le message qu'on a apporté aux enfants, pour qu'ils amènent le même message au niveau des parents et que les parents fassent un effort de commencer à éliminer de plus en plus le plastique. Parce qu'avant le plastique, les gens encore vivaient mieux.
Toujours dans le cadre de la célébration de la journée de l'environnement, le ministre provincial du Maniema invite la population à une culture responsable de la protection de l'environnement. Masumbu Kolutaka exhorte à une bonne gestion des déchets pour garder l'environnement sain. Masumbu Kolutaka Francis est au micro de Florence Kizalunga.
La journée de l'environnement, c'est une journée qui vient nous refléter l'image de pouvoir respecter notre environnement. Pourquoi nous devons respecter notre environnement? C'est parce que notre vie en dépend, tout d'abord. Nous ne pouvons pas vivre sans avoir protégé cet environnement. C'est-à-dire la santé que nous avons, la manière dont nous nous comportons, même la façon dont nous travaillons, nécessite un environnement favorable. Un environnement sain. C'est pourquoi nous devons bien protéger notre environnement. Nous devons entretenir nos milieux, tout simplement parce que ça rentre dans le cadre de la protection de notre santé. Nous devons avoir cet esprit de bien gérer nos déchets. Même dans nos bureaux, même sur la rue, vous ne pouvez pas prendre une bouteille d'eau et après avoir consommé, vous jetez la bouteille sur la rue. La gestion de nos déchets est un problème capital et nous devons tous nous y pencher.
Actualité internationale. Le Trésor américain annonce des nouvelles sanctions contre 4 responsables de la Cour pénale internationale CPI. Washington s'oppose au mandat d'arrêt émis en novembre et visant Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense. Les 2 responsables israéliens sont poursuivis pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza.
L'invité.
Il s'agit du docteur Jules Villa de l'Institut Pasteur de Paris. Il a travaillé sur les urgences sanitaires en RDC depuis 2016. Récemment, il a mené une recherche sur le monkeypox au quartier Pakajuma, épicentre de la maladie à Limete, Kinshasa. Dans cet entretien avec Plotin Yambenga, il revient notamment sur les conclusions de son travail.
Docteur Jules Villa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené des recherches sur l'épidémie des monkeypox dans les quartiers Pakajuma, l'épicentre de la maladie ici à Kinshasa. À quelle conclusion a abouti la recherche que vous avez effectuée sur cette pathologie?
Oui, donc merci pour la question. Nous avons mené cette recherche-action avec le docteur Devos Kabemba Kalenga, qui est médecin chef de zone à Limete, et son équipe, pour documenter l'expérience des patients atteints par le monkeypox. Notre enquête visait à comprendre pourquoi cette population a été parmi les plus affectées par le virus à Kinshasa, en s'entretenant avec les personnes guéries du mpox et en leur posant des questions sur l'expérience qu'elles avaient eue de l'épidémie. Et notre recherche a mis en évidence l'importance des personnels de santé locaux dans l'orientation des patients, la centralité des relais communautaires sur le terrain, dans la transmission de l'information, et elle a identifié un certain nombre de vulnérabilités majeures spécifiques à Pakajuma, notamment l'importance de densité de population qui vit dans le dénuement absolu, une intense mobilité, l'absence d'accès à des sanitaires et à de l'eau, le partage aussi de certaines affaires hein, comme la vaisselle, les vêtements, des éponges, peuvent devenir des vecteurs de transmission virale en l'absence de savon pour une.
Et docteur, vous parlez des recherches actions. Quelles actions ont été mises en place à partir de votre recherche?
Nous avons travaillé avec les guéris de la mpox pour cette recherche et au cours de cette recherche, il est apparu que les personnes faisaient face à des défis spécifiques, notamment la stigmatisation, des symptômes persistants après leur infection, des expériences traumatisantes. Mais pourtant, en fait, avec l'expérience qu'elles avaient vécue, ces guéris étaient les mieux placés pour sensibiliser la communauté à partir de leur expérience. Et du coup, nous avons structuré ces personnes guéries en association d'entraide et de secours mutuels pour qu'ils puissent s'aider, s'entraider et aider aussi la riposte contre la mpox dans leur localité. Et ils sont devenus ce qu'on a appelé les ambassadeurs de la zone de santé dans une association d'entraide qui existe aujourd'hui et qui est fonctionnelle.
Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de votre recherche ici à Kinshasa?
Bon, la difficulté principale, ça a été de gagner la confiance de nos interlocuteurs, de les convaincre de notre sérieux qu'on était des visiteurs dans ce milieu. Et cela s'est passé par une fréquentation quotidienne de Pakajuma, mais aussi ça n'aurait pas été possible sans le soutien des personnels de santé et des relais communautaires qui sont sur place, connus de la population. Il y a aussi, je pense, aux présidents des comités de santé, aux infirmiers titulaires qui ont vraiment joué un rôle central pour notre acceptation puisque nous étions des visiteurs et vraiment nous les remercions pour leur engagement au quotidien pour cette population et que nous avons pu partager le temps de ce projet de recherche.
Docteur, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que Pakajuma soit souvent l'épicentre des maladies virales ici à Kinshasa? Parce que par le passé, le choléra a également sévi dans ces quartiers.
Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a plusieurs situations épidémiologiques qui ont eu lieu à Pakajuma, mais il n'y a pas de fatalité. Il faut le dire, la situation de grande vulnérabilité et de grande pauvreté dans laquelle vit la population de Pakajuma fait que cette localité, elle a été affectée par plusieurs épidémies et urgences sanitaires et qu'elle vraisemblablement le sera dans le futur. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des infrastructures, notamment l'accès à l'eau, qui sauvent des vies et qui préviennent ces épidémies. Donc c'est avant tout un effort de développement qui permettra de être prêts face aux épidémies à venir à Pacajuma.
Quelles recommandations vous formulez au gouvernement central, mais aussi à la population vivant dans ces quartiers pour lutter contre d'éventuelles épidémies à l'issue de votre recherche?
Pour le gouvernement, ce serait de travailler avec ses partenaires à l'amélioration des conditions de vie de la population, et particulièrement les populations les plus vulnérables qui vivent à Pacajuma. Et pour la population, ce serait de continuer d'être à l'écoute des messages de santé publique et de faire confiance au personnel de santé qui travaille chaque jour pour protéger la communauté, et de ne pas hésiter également à poser toutes les questions qu'elles se posent sur la maladie ou pour tout autre besoin d'information.
Vous êtes en train de rédiger un livre sur l'histoire du Mpox en RDC. Quel en sera le contenu en quelques lignes?
Oui, effectivement, en fait, la RDC, c'est un lieu absolument fascinant pour écrire une telle histoire, puisque vous le savez certainement, mais le virus a été identifié à partir d'une personne en RDC en 1970 qui avait été prélevée à l'hôpital de Bassankoussou. Et depuis lors, il y a eu de nombreuses recherches qui ont été menées en RDC dans les années 80 sous l'égide de l'OMS, mais aussi plus tard dans les années 2000 dans différentes provinces de la RDC. Donc la RDC a une histoire très riche de recherches médicales sur cette pathologie dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui a concerné un certain nombre de provinces depuis déjà plus de 50 ans. En quelques lignes, je voulais dire que mon livre va parler de cette histoire longue du Mpox en RDC au cours des 50 dernières
années. Docteur Jules Villa, Radio Capi vous dit merci.
Merci à vous.
Notre invité répondait aux questions de Plotin Yambenga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.